una perdita di estrema vicina di accogliere le sue cose che si vuole lavorare. Puis l'universel se donne dans l'accident. Alors, les prédicats de sortir,
c'est la distance.
Aristote dans les octobres, emploie le temps, l'isagogue de Porphyre va jouer à partir de Porphyre un rôle très important. Il faudrait regarder le nombre de fois où l'isagogue de Porphyre ont été commencés. C'est intéressant à voir. Ensuite, nous entrons alors au point de vue de la tradition du Moyen-Âge avec Boèce. Boèce représente un grand tournant au point de vue logique. Il n'est pas tout à fait de la même veine. Oui, c'est important, il faut comprendre ce que c'est que Boèce. Boèce naît à Rome vers 480, mort en 524. Boèce est un traducteur, la translation, traducteur des livres d'Aristote. N'oubliez jamais que l'Aristote qui a pénétré dans le monde latin est avant tout l'Aristote logique. L'Aristote métaphysique a mis beaucoup plus longtemps à pénétrer dans le monde latin. Que c'est par indirectement par les Arabes qu'il a pénétré dans le monde latin. Et ce n'est pas vrai quand les livres métaphysiques d'Aristote ont pénétré directement. C'est très important parce qu'alors on voit comment Boèce, au fond, connaît les livres d'Aristote, la logique. C'est difficile de connaître la logique d'Aristote sans connaître sa philosophie. Je disais hier que la philosophie de la logique d'Aristote était intimement liée à sa philosophie. Et que pour bien connaître la logique d'Aristote, je crois qu'il faut connaître sa philosophie. Ça me semble très très difficile de connaître uniquement la logique d'Aristote pour elle-même. Puisque elle est un organum. Elle est relative à. Et donc on ne peut pas connaître vraiment l'organum sans connaître la philosophie. Alors, ce qui est très curieux, c'est un phénomène très intéressant à voir, c'est de voir que de fait, Boèce est mis à traduire la logique d'Aristote sans connaître très bien sa métaphysique. Alors on a les traductions d'abord des catégories, de l'interprétation, une partie des petits. La traduction alors de l'isagogue de Porphyre aussi, traité sur les syllogismes hypothétiques et les syllogismes catégoriques. Et le traité sur la divinité. Donc on a toute une série de traités, de commentaires. Ce sont des traductions avec un tout petit commentaire, très bref. Un commentaire philosophique, logique. Alors, après Aristote, la plus grande autorité philosophique au Moyen-Âge sera Boèce. Boèce va jouer un rôle très très important. Donc, c'est intéressant de saisir. On ne voit pas là. Il y a une certaine matérialisation, pour ceux qui connaissent un peu Boël et ceux qui connaissent Aristote, il y a une certaine matérialisation d'Aristote dans Boël. Il ne faut pas nier, je crois, cela. Et c'est ce qui est assez normal, parce que justement, le point de vue profond de la philosophie d'Aristote n'est pas vu. On voit que le corps. Quand vous regardez que le corps, vous matérialisez toujours. Et le corps, c'est de fait à la vie. C'est la fait formelle. Je n'insiste pas, mais il faut connaître Boël, au moins à la mesure où vous le pouvez. Si vous pouvez lire le commentaire sur les catégories, c'est très intéressant de voir cela. Nous avons aussi un personnage très important qui va commencer un aspect particulier d'une interprétation de la logique. On va appeler le nominalisme. Il y a deux moments du nominalisme. Un premier moment avec Abélard et le second moment avec Octave. Deux aspects du nominalisme intéressants à voir, qui sont très différents du reste l'un de l'autre. Abélard, il est né à Falaise, près de Nantes, 1079. 1142, donc c'est le 12e siècle. Mais entre deux, alors vous allez me dire, mais entre deux, c'est une logique très mélangée. Regardez la logique de Saint-Augustin, par exemple. Je prends la logique de Saint-Augustin. C'est avant tout une rhétorique. C'est Saint-Augustin, on ne peut pas dire que c'est une rhétorique. C'est la rhétorique qui a pénétré. Alors ça, c'est très intéressant de voir l'histoire de la rhétorique. L'histoire de la rhétorique à partir des sophistes, passant par Platon, passant par Aristote, et qu'on retrouve pratiquement chez les pères de l'Église. Énormément de pères de l'Église ont comme logique une rhétorique. La philosophie, la théologie est née avec une rhétorique. Et là, c'est ce qui explique comment la logique des pères de l'Église, dans cette édition, c'est très très net, c'est le point de vue de la division. Il semble pas très curieux. La division joue un rôle extrêmement important chez les pères de l'Église, parce que de fait, la division est au cœur de la rhétorique. On pourrait dire que la division, c'est l'élément commun de la rhétorique et de la logique. Et c'est l'aspect de la division qui est transmis par le point de vue rhétorique. Alors, en face de cette logique rhétorique, nous avons chez Abélard un souci de revenir à une logique beaucoup plus rigoureuse. En face d'Abélard, il y a les pères de l'Église, certains pères de l'Église, qui réagissent violemment à Saint-Bernard. Et la logique de Saint-Bernard, elle n'est pas très forte. Quand vous lisez Saint-Bernard et que vous lisez Abélard, vous voyez qu'il y a une très grosse différence. Saint-Bernard plaide d'un point de vue spirituel. Abélard plaide de point de vue rationnel. La logique, alors c'est pour ça que c'est intéressant Abélard, parce que c'est l'identification du rationalisme et de la logique. Pas du tout chez Boël, mais chez Abélard c'est comme ça. Il y a là un très grand tournant d'un point de vue de la pensée, face à une rhétorique pieuse, une rhétorique théologique, une rhétorique qui n'est pas du tout armé pour voir les erreurs d'Abélard. Alors, c'est faible, le réponse de Saint-Bernard en face d'Abélard. C'est ça du point de vue de la pensée. C'est très beau au point de vue de la foi, au point de vue de ce que représentent les intentions profondes de la foi, mais c'est faible. Il ne faut pas vouloir défendre à tout prix la rhétorique en face d'un effort logique. Alors, il y a deux aspects dans Abélard. Il y a un aspect très sympathique de quelqu'un qui veut découvrir quelque chose de beaucoup plus rigoureux, et puis il y a quelque chose de moins sympathique, c'est que, de fait, on a l'impression que cet aspect de la rationalisation va souffrir. Abélard voudrait faire une nouvelle théologie à base d'une logique. Alors, ça, c'est beaucoup moins sympathique. L'aspect contemplatif disparaît. Alors que l'aspect contemplatif chez les pères de l'Église et chez les théologiens de ce temps-là est premier. Alors, à ce point de vue-là, on pourrait dire que nous entrons avec Abélard dans une perspective d'une logique qui se veut beaucoup plus, qui se veut comme toute logique, la logique est toujours rationnelle, il ne faut pas être autrement, mais qui voudrait tout prendre et faire une théologie logique. Alors, quelques mots sur Abélard. Hein. Interprétation du vague de fortune. Alors, il nous donne une définition de la logique dans cette interprétation de l'isagogé que je dis. Cum logica ratio sic differendi ac est discreto argumentandi argumentationes vero propositionibus juntantur propositiones vero ex discreto et constitutionem siam et significationem contraire. Alors, je traduis parce que je vais comprendre un peu, c'est ça, mais vous ne vouliez pas que les cours d'étudiants d'avant ce que j'aime latin, mais ce qui faisait que pour les étudiants ne prenaient pas grand chose. Parce que le latin se prononce à la française, ou à l'allemand, ou à l'espagnol, ou à l'américain, faisait que c'était vraiment une langue très particulière. Alors, comme la logique et la raison ratio. C'est intéressant. Hein. La logique, c'est la ratio différendi de discourir. Quoi que je peux dire, la ratio de discourir. Ceci est discretio argumentandi. La discretio, la ratio est discretio. Discretio discernerant pour argumenter. Donc, la logique, c'est la ratio. C'est difficile à traduire ratio. Il faut arriver petit à petit à traduire ratio pour vous mettre quand même un petit contenu dedans. Le logos grec traduit par ratio latin. Alors, si vous traduisez raison en français, ça va plus difficile. Il faut comprendre. Là, il y a un lien. Logos ratio. Comment traduire ratio en français ? De temps en temps, ratio en français, c'est le contenu intelligible. Très souvent, c'est le contenu intelligible. Ratio, de temps en temps, exprime le point de vue de la réalisation. Quand vous dites ratio ici, par exemple, la raison d'être, c'est l'être en tant qu'être. C'est ce qui est en tant qu'être. C'est en même temps le contenu intelligible. C'est très difficile à traduire. Hein. Alors, de temps en temps, on traduit notion. Notion, c'est bien le contenu intelligible. Mais ce n'est pas notion tout à fait ratio. Ce n'est pas notion de l'ombre. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose de très difficile à traduire vraiment et ne pas rester sur une traduction trop rapide. Hein. Alors, retenez l'ombre de ratio. Ce sont ces expressions qu'il faut arriver petit à petit à exercer dans notre intelligence et avoir et garder une très grande souplesse. Hein. Alors vous voyez que tout de suite la logique s'appelle à la ratio. Tout de suite, la logique c'est la ratio différente. Je vous dirais ça, c'est pas l'expression de la logique. Hein. La logique c'est la ratio différente. Comme logica, ratio c'est différente, la raison de discourir. Donc, c'est-à-dire, la logique va nous faire comprendre ce qu'il y a de profond dans le développement, dans le discours, dans tout ce que représente le développement de la pensée. C'est la ratio du développement de la pensée. C'est le contenu intelligible du développement de la pensée. Quand on peut dire ça, c'est le contenu intelligible. Vous voyez comme c'est loin, Saint-Bernard, hein, pas tout à fait ça. Et c'est la discretio argumentandi. Alors, discretio. Discretio, c'est le discernement. La discrétion. Discernement. C'est pas tout à fait la même chose. Dans Ratio n'est pas impliqué du tout l'aspect du jugement. Ratio ne dit pas du tout le jugement. Et c'est pour ça que Ratio sera pris en tout, relativement, par le point de vue de l'appréhension. L'appréhension de ce sujet de rationnel. Tandis qu'au contraire, dès que vous avez le point de vue du jugement,
Vous avez besoin de la discrétion. Primaire, c'est une discrétion. Visée. Alors vous voyez tout de suite que la logique regarde les deux. Elle va regarder ratio et discrétion. Les deux aspects. C'est le premier moment hein, d'une espèce de raisonnement de ce qu'on comprend ce que la logique pour elle-même. C'est intéressant parce que c'est quand même une première définition de la logique. Aristote n'a pas donné de définition de la logique. Il n'a pas dit, simplement, il en a fait. Il n'a pas schématisé pour que nous comprenions ce que c'est la définition de la logique. Il a donné toute une série de livres. Il faut comprendre que ces livres ont une certaine unité. Alors c'est pour ça que Abélard à ce point-là est intéressant parce que c'est quand même un premier effort de raisonner sur. Ce qui est l'instrument du raisonnement. On essaie de définir ce qui nous est donné. Alors, argumentationnet, vero proportionibus, d'une grande tour. Donc, vous avez la ratio, vous avez la discrétion, vous avez les argumentationnaires. Vous voyez les trois opérations d'esprit qui sont présentes dans cette définition de la raison. C'est saisir la ratio, la ratio pour le développement. Pour le point de vue de la discrétion argumentandi, et puis les argumentationes propositionibus, c'est une aventure. Les argumentations vont unir, vont joindre des propositions. Qu'est-ce que c'est que l'argumentation? C'est un lien qui se fait à travers même les propositions. Et les propositions, alors il va l'analyser, les propositions sont à partir des dictionibus, et elles contraintent, elles déterminent, elles contrastent, c'est l'idée de détermination et contraction. Elles, à partir, et les propositions à partir des dictions, contrastent la signification des dictions. Donc, il essaie de comprendre l'élément de ce que représente l'argumentation. C'est à partir des dictionnaires. Et ainsi, chacun diligenteur sera sa vie, et ainsi chacun pourra traiter avec diligence pour qu'il puisse saisir mieux la signification du sermon. Voilà le but de la logique. Le but de la logique, c'est de mieux saisir les significations. C'est intéressant parce que ça ne sera pas toujours le point de vue qui sera donné de la logique. Hein. Alors, le grand problème d'Abélard, c'est comme toujours la psychologie du nominalisme, et nous y reviendrons, je le signale simplement ici, c'est le problème de l'universel. C'est intéressant parce que c'est à partir de ce moment-là que le problème de l'universel va commencer à être thématisé. Voyez, alors, on peut dire que c'est au moment où on fait une réflexion sur l'universel qu'on peut préciser ce que c'est que la logique. De fait, c'est comme ça. Historiquement, c'est comme ça. Avant, on a fait de la logique, on a exercé la logique, mais on n'a pas fait de réflexion sur l'universel. Remarquez que l'effort de Porphyre est déjà un premier effort de préciser ce que c'est l'universel. Porphyre essaie de préciser ce que c'est l'universel. Mais il le donne dans sa division. Il ne dit pas ce que c'est l'universel, il dit le prédicable. Alors, le prédicable, c'est la propriété de l'universel. L'universel est attribuable. Donc, il saisit l'universel par la propriété. Tandis qu'il y a fait à Abélard, un premier souci de saisir l'universel par rapport au réel, par rapport au non, par rapport à la vie d'un pays. Ça, c'est le grand point de vue. On trouve déjà que ces abîmes-là, on retrouvera dans le nominalisme. Alors, c'est la différence de vie entre le bon, il y a un rôle très important. Et il va nous montrer donc l'universel et le beau niveau de la voix, du nom, donc la voix, quand je parle, il y a la voix, il y a le nom, il y a le fermo, fermo de discours. Le discours avec des mots et des verbes. Là, les éléments sont impliqués dedans. Et alors, il montre l'opposition avec la règle, la réalité. Donc, cette première opposition très importante, c'est ça, entre la réalité. Les réalités sont toujours singulières. Un connaissance même. grave. La réalité est toujours singulière dans son essence. Seul est universel la voix, le mot et le verbe.
Donc l'universel est au niveau de l'intelligence qui est source de la voix, source du mot, source du mot.
Tout ce qui vient de l'intelligence est universel. On définit que l'intelligence est source de l'universel. Alors que la réalité, elle est toujours dans le singulier.
C'est pas de là qu'il premier à bien saisir ça. Vous voyez, dans la théologie de Saint-Augustin, vous avez l'opposition constante entre rêve et divinat.
Le ciel et la réalité.
Ça, c'est une distinction qui vient directement de Platon.
C'est le bon sujet de la réalité. C'est tout le ciel, les apparences.
C'est tout à fait différent ici. Vous avez l'opposition qui est beaucoup plus proche d'Aristote.
C'est dans le courant d'Aristote.
N'oublions pas qu'Abélard est disciple de Boès. Hein? Il interprète Boès, il vient Boès, de l'île disciple. Il traduit, il continue Boès. C'est dans la ligne d'Aristote.
Pas oublié, le savant.
C'est un journal, pas tellement.
C'est le païen, c'est l'intrusion du
païen.
C'est l'intrusion de quelqu'un qui est quand même
très dangereux.
Alors, la logique est dangereuse.
Dans les premières choses de l'ordre, on voit qu'on
donne des recommandations à la vie de ne pas faire trop de logique,
parce qu'il fait réserver le sens de la prière.
Si on fait trop de logique, on voit le sens de la prière,
parce que la logique, il faut qu'on raisonne.
Alors, ce raisonnement qui vient d'Aristote, qui vient d'Aristote, c'est Aristote le fait du raisonnement, c'est Aristote qui celui qui a eu soin que tu dédies du logos,
alors on doit introduire dans le monde latin par Boël, continuer avec Abélard.
Je ne dis pas que l'arithmétique est inutile, hein. C'est l'arithmétique prolifusée.
L'arithmétique qui n'est pas un véritable.
C'est intéressant de voir que c'est quand même l'idée d'arithmétique.
Alors, l'universel ne regarde pas la règle,
parce que la règle est singulière,
et elle est singulière dans toute seule.
Tandis qu'elle regarde les mots, elle regarde la voix.
Alors il reprend la définition de voix et de voix, il reprend la définition des mots et du discours de voix.
Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement ce premier moment, dans cette statique, c'est simplement ce que je souligne.
L'individualité tient au fond des choses. Elle est essentielle à la substance.
Pour ceux qui s'intéressent au problème de la substance, on voit chez Abélard
la substance et le sujet.
Ce que je fais, la substance, dans les catégories.
Le sujet.
Cet homme signifie un sujet.
Cet homme singulier ne peut être que sujet.
Or, le sujet est toujours singulier.
Et donc, la réalité est toujours singulière.
Dissimulitatue individua in personali. Tantum discretionné constitue.
Il est aussi du fait, quoi d'une fée, res una, et discreta ad omnibus ali, que omnibus etiam accidentibus remotus, il fait una personaliter permanent, net alia officier retour, net mini, it homo est.
Alors, c'est peut-être c'est intéressant d'abord parce qu'il montre que l'individu et la personne sont très liés.
Nous disons que les individus impersonnels consistent seulement discrétionnés.
Alors, ils ont une unité individuelle et cette unité individuelle se retrouve dans la personne et dans le sujet.
Alors, il y a en plus des accidents qui viennent s'ajouter.
Et les accidents viendront s'ajouter.
Et l'universel ne touchera jamais le point de vue individuel, il sera qu'au niveau des accidents.
Regardons maintenant, comme moment important, la réflexion de Saint Thomas.
Là aussi, nous avons un retour à Aristote, mais alors un retour à Aristote qui ne se fait plus par le détour de Boël.
Un retour à Aristote très direct.
Saint Thomas n'est pas ni d'accord avec Abélard, ni d'accord avec les résistants d'Abélard. Saint Thomas sera pour regarder une logique comme étant une certaine science rationnelle. Alors, je ne vais pas faire ici, c'est simplement indiquer quelques aspects qui sont très importants dans le grand tournant, peut-être original, si vous voulez, que Saint Thomas apporte. Alors, il faudrait regarder avant tout, en premier lieu, le commentaire de Saint Thomas d'Aristote. Métaphysique, je vous dis quelques lieux, pour ceux qui s'intéressent à cela, quelques lieux où on trouve des positions intéressantes dans un commentaire de métaphysique de 905-335. Il montre la logique est quelque chose de premier. Il montre que la logique a une certaine primauté. Pourquoi ? Parce que la logique traduit. Comme il y a un module, donc la logique, elle communique, elle traite du mode commun de procéder dans toutes les choses. Si vous revoyez là, je considérais que la première chose à apprendre en tant que sujet de la philosophie, c'était la logique. Et d'ailleurs là, c'est bien de l'apprendre. Vous voulez faire de la philosophie, celle d'abord de la logique. Il faut d'abord vous purifier l'intelligence. C'est absolument indispensable. Alors, c'est parce que justement, la logique va s'occuper du mode commun de procéder, dans toutes les choses. Vous avez en tout 1, leçon 1, 32, et puis leçon 2, 53. Je vous rappelle encore la question ici, le livre 9. Leçon 1, 1765. Pour les deux principaux, d'abord. Le point de vue du statut de la logique, il est très intéressant. C'est pas le point de vue du statut. Et alors, le lieu plus important, où Saint-Thomas essaie de préciser ce que c'est que la logique, alors c'est vraiment là où on a un apport très net de la pensée de Saint-Thomas comparativement à ce qu'il y a avant, c'est d'essayer de préciser l'objet propre de la logique. Si la logique est une science, on ne peut connaître vraiment ce que c'est cette science qu'en précisant ce que son objet propre. C'est le sens du fait qu'il a dit le fait qu'il fait ça, le fait ça, 500. Nous allons voir du reste quelques lieux qui me semblent importants à saisir, c'est l'objet propre de la logique. Nous reviendrons sur la question de l'objet propre de la logique à propos de l'être de raison. Je vais simplement ici toucher un tout petit peu, mais nous y reviendrons. C'est le paragraphe suivant, mais ça c'est un livre d'être de raison. Alors, je vous lis simplement ici ce que nous dit Saint-Thomas dans son commentaire du livre 4. Donc, au livre 4 de son commentaire de métaphysique, Saint-Thomas reprend le texte d'Aristote, montrant les buts différents que se propose la philosophie et la dialectique. Cette dernière, donc la dialectique, explore, c'est estentativant, c'est très difficile à traduire, estentativant, qui rend le grec peirastiké. Donc elle explore les choses que la philosophie est capable de faire connaître. Vous pourrez vous référer, c'est une petite étude que j'ai faite sur l'originalité de l'extraterrestre dans la philosophie de Saint-Thomas. Donc, c'est paru l'année dernière, dans l'Angélicisme. Je vous donnerai la référence plus exacte en voyant l'extraterrestre. C'était sur l'extraterrestre. Ici, je veux simplement vous donner la traduction de ces quelques textes, plutôt que de vous les dire en latin. Alors, vous rappelez que Saint-Thomas ici montre, à la suite d'Aristote, les différents buts que se proposent la philosophie et la dialectique. Donc, la dialectique explore, elle est tentativante, les choses que la philosophie est capable de faire connaître. Tiens, vous voyez la différence entre les deux. C'est le terme grec gnoristiké. Donc, il y a le peirastiké opposé au gnoristiké. La connaissance et le fait tentativant explorer. Saint Thomas commence ce texte en soulignant que l'être est double. Alors là, il précise quelque chose qu'Aristote n'avait pas donné. Aristote précise exactement la place de la dialectique et la place de la philosophie. Là, il ne fait pas la distinction entre dialectique et logique. La dialectique est une logique. La dialectique fait partie de la logique. Alors, il va préciser donc que l'être peut se donner sur une double manière, l'être rationnel et l'être naturel. Alors, vous voyez ici, être rationnel, c'est toujours rationnel, mais dans un sens très différent. Alors, vous avez donc être rationnel et être naturel. Ce sont des expressions très fortes en tant qu'être. Donc, très loin, vous êtes traduit sur le grec, vous verrez que c'est bien fait. C'est quoi? Le soin physique, c'est ça? L'être physique, l'être de la nature, l'être naturel, c'est ça? Alors il faut comprendre que toujours, par toute division, qu'est-ce qui est opposé? Il y a l'élément commun, c'est être. Et puis, l'être absolu, l'être qui naît de la raison, l'être qui naît dans la nature. L'être, c'est qui est là? C'est très difficile. Ça traduit directement le mot grec thoron.
Pour ceux qui aiment le grec, pour lequel le grec est plus important. Pour ceux qui aiment le grec, pour lequel le grec est plus intelligible que le latin.
Le grec est plus intelligible que le latin, ça c'est très très vrai, parce que le latin traduit le grec. Hein. Alors comme le latin traduit le grec est plus intelligible, parce qu'il est à la suite. Alors vous avez le thorne qui se traduit M, et traduisez ça, je crois que le mieux c'est de traduire ce qui est. C'est très difficile, ne traduisez pas étant, vraiment, parce que étant, c'est ce qu'aujourd'hui, c'est la résonance avec des guerriennes. Alors si c'est la résonance avec des guerriennes, si vous traduisez le temps, ça ne va plus du tout. Ça ne veut pas traduire le temps. On devrait traduire le temps si c'est participe, alors on devrait dire le temps. Mais dès que vous traduisez le temps, vous pensez tout de suite à la différence de être et étant. Alors si elle dit ça ne va plus. Alors vous voulez dire que le temps a ajouté le temps, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Alors, voici le texte de saint Thomas. Il va expliquer la différence entre les deux. Donc ce texte, c'est le commentaire de Métaphysique 4, 574, le dernier. L'être de raison se dit proprement des intentions que la raison découvre. A dit Véni. Donc que la raison découvre. Dans les réalités considérées par elle. Comme l'intention de genre. L'intention d'espèce. Et autres semblables qui ne se retrouvent pas dans la nature des choses, une rerum natura, mais résultent de la considération de la raison, et cet être de raison qui est proprement le sujet de la logique. Donc le sujet de la logique, c'est ça qui est intéressant, ce qui précise ce qu'Aristote n'avait pas dit, le sujet de la logique, c'est intrinsèque. Alors, nous y reviendrons à infractionniste. Hein. Je vous le situe ici, encore une fois, dans une topique pour montrer l'apport de saint Thomas, hein, pour montrer ce que ça signifie. Il faudra préciser un petit peu. Donc, voyez bien, je reprends la phrase pour que vous voyez bien. L'être de raison se dit proprement des intentions que la raison découvre dans les réalités considérées par elle. Alors, intentionnel, j'aime mieux traduire intention. Très difficile à traduire. C'est quasi impossible de traduire une intention. Intentionnalité. Alors vous êtes devant l'intentionnalité, vous êtes devant l'abstrait. Il prend intention, pas l'abstrait. Vous voulez dire intention, parce que dès que vous mettez intentionnalité, vous êtes devant l'abstrait. Alors c'est très bien pour thématiser intention, de dire intentionnalité. L'intentionnalité, c'est que parfois les intentions sont intentions. Donc c'est la formalisation de l'intention. Alors, la formalisation de l'intention, c'est l'intentionnalité. Mais de fait, il le prend dans la découverte même de l'intention. Donc, l'être de raison se dit proprement des intentions que la raison découvre, à diminuer, dans les réalités considérées par elle. Dès que l'intelligence connaît quelque chose, elle le transforme. et elle peut réfléchir sur la transformation qu'elle a fait subir à ses réalités.
D'où elle découvre dans les réalités considérées par elle des intentions nouvelles, comme l'intention de genre. Donc nous retrouvons le genre. Le genre, ça n'existe pas dans la réalité.
L'espèce et autres semblables qui ne se trouvent pas dans la réalité des choses, mais résultent de la considération de la raison. Et c'est cet être de raison qui est proprement le sujet de la logique. Le sujet d'une science, c'est ce à quoi on attribue tout dans cette science. Alors, le sujet n'est pas l'objet, n'est-ce pas ? Mais cependant, il y a un lien très fort entre les deux, et on essaiera de préciser. Mais de telles intentions intelligibles sont coextensibles, alors c'est un terme très curieux, équiparentaux. Mais de telles intentions intelligibles sont coextensives, j'aime mieux d'y mettre coextensives à équiparentaux, aux êtres de la nature, du fait que tous les êtres de la nature tombent sous la considération de la raison. C'est pourquoi le sujet de la logique s'étend à tout ce à quoi est attribué l'être de la nature. Il y a équiparentour, il y a égalité d'extension entre la philosophie et la logique. Ceci, c'est capital. Ça, c'est très beau d'avoir dit ça. Vous voyez la différence avec Aristote qui dit la logique organum. C'est indiqué dedans, du reste. Si vraiment la logique est organum, tout ce que l'intelligence connaît tombe sous la logique. Équiparentour. Ça, c'est explicité par rapport à Aristote. C'est pourquoi le sujet de la logique s'étend à tout ce à quoi est attribué l'être de la nature. Aussi, Aristote conclut-il que le sujet de la logique est coextensif au sujet de la philosophie, qui est l'être de la vie. Il attribue quelque chose à Aristote, hein? Mais au fond, on voit bien, on voit qu'on peut le dire. Le philosophe, alors voici la différence entre les deux. Le philosophe procède donc à partir des principes de celui-ci pour prouver ce qui est à considérer concernant les accidents communs de l'être. Le dialecticien, au contraire, procède à la considération de ceci à partir d'intentions de raison qui sont étrangères à la nature des choses. L'intention de genre est étrangère à la nature. C'est intéressant. Là. Ce qu'il veut cadélardiser, vous voyez comme ça rend compte de la chose. Hein? Cadélardiser, l'arrêt. L'arrêt, c'est ens nature. Donc, l'arrêt, c'est la réalité singulière. L'intention de genre, c'est l'universel, est étrangère à l'arrêt. Étrangère, ses intentions sont étrangères. Donc, à première vue, ça a l'air d'être tout à fait dans comme la Bella. Mais c'est pas tout à fait la même chose. On va essayer de voir la différence qu'il y a. Mais il y a quand même quelque chose qui est très net, c'est que saint Thomas reconnaît que la logique formellement est totalement distincte de la théorie. Puisque de fait, les intentions qu'elle considère, je dis formellement, hein, fondamentalement, elle s'appuie sur la philosophie. Le dialecticien, au contraire, procède à la considération de ceci à partir d'intentions de raison qui sont étrangères à la nature des choses. C'est pourquoi l'on dit que la dialectique est de type exploratoire, est tentativa. Elle explore parce que c'est proprement procédé à partir de principes étrangers. Elle est tentativa, alors, à partir de principes étrangers par rapport à la réalité, par rapport à la philosophie. Elle aura donc sa possibilité de se développer en dehors de la référence directe à la réalité. Donc ça, c'est un texte très important. Il faut méditer dans la mesure où vous avez le temps de méditer, progressivement, parce qu'au début, vous aurez de la peine. Mais c'est un texte très important parce qu'il montre bien quel est le sujet de de la logique et il fait le parallélisme entre la logique et la philosophie. Ce texte reconnaît en premier lieu que l'être est double. Deux aspects de l'être. L'être se dit de deux manières. Ens absolus, ens naturel. Cela ne veut pas dire que l'être soit ambigu. Que vous pourriez dire, il est ambigu. Quand je dis ens, ça peut être ens fratellis ou ens naturel. Mais que, pour nous, il y a ce qui est de la raison, ce qui est de la nature. Ce qui prend naissance à partir de la connaissance. Ce qui prend naissance à partir de la connaissance, c'est-à-dire ce qui ne s'enracine directement. Par là, saint Thomas fonde la distinction de la logique et de la philosophie. Je crois que vraiment, par là, il montre pleinement la différence qui existe entre les deux. En reconnaissant, du reste, que la logique et la philosophie ont même extension, car les intentions que la raison découvre dans les réalités en tant que considérées par elle sont coextensives. Autrement dit, puisque tout ce qui est dans la réalité peut être considéré par notre intelligence, tout ce qui est dans la réalité est intelligible et peut être connu. Notre intelligence peut découvrir dans ces réalités, en tant qu'elle les connaît, ses intentions de genre, ses intentions d'espèce. Ses intentions sont des êtres de raison. Ce qu'on tient bien la logique. Il faut bien comprendre que ce parallélisme écrit par Ancia, que saint Thomas reconnaît ici entre l'être de raison et l'être de nature, se situe au niveau des sujets. Le sujet d'une science, saint Thomas le dit expressément à la suite d'Aristote, c'est ce dont nous cherchons les causes et les propriétés. C'est toujours ce point de vue-là. Hoc est enim subjectum in scientia, cuius causas est passiones pueris. Donc c'est ce que nous cherchons, c'est les causes et les propriétés qui se sont à partir d'un sujet. Cette équiparence au niveau des sujets implique qu'ils aient même extension. Donc vous avez deux sujets parallèles. Le sujet de la philosophie, c'est ens naturae. Le sujet de la logique, c'est ens rationae. Donc nous reviendrons à la question de l'être de raison. Mais c'est simplement pour, encore une fois, signaler là que saint Thomas prend ens rationis. Alors l'origine de l'ens rationis, vous avez dit, c'est Avicenne. Ce n'est pas saint Thomas qui a inventé ens rationis, mais c'est de fait Avicenne. Mais saint Thomas l'a exploité d'une façon tout à fait originale pour bien préciser ce que c'est que la logique. Alors nous étions restés à ces considérations, ces quelques considérations, je ne vais pas entrer trop longtemps dans le problème. Ce serait intéressant, il y aurait toute une étude intéressante à faire comment, par rapport à Aristote, commentateur d'Aristote, nous donne une signification plus précise de ce que représente la logique. Alors je vous citais la dernière fois ce texte important de la métaphysique et quelques références de la métaphysique. J'espère que vous les avez regardées, enfin. Alors maintenant, nous pourrons le plus vite. Nous allons essayer de préciser exactement ce que ça représente. Enfin, je ne relis pas ce texte dans Métaphysique 4, 574, qui est un texte très très important où saint Thomas montre le parallélisme entre le point de vue de la logique et le point de vue de la philosophie. Et montre en même temps la différence entre les deux, entre le point de vue de la philosophie qui regarde l'ens naturae et la logique qui regarde l'ens rationae. Alors il s'agit de bien comprendre ce que signifie ens naturae, ce qui existe dans la réalité physique, et ens rationis, ce qui existe dans l'intelligence, disons ça pour le moment, nous y reviendrons. Regardez également au livre 7 dans la métaphysique, commentaire métaphysique, leçon 13, 1776. Je vous lis ce texte. Le logicien considère les réalités en tant qu'elles sont irrationnées. Donc le logicien considère les réalités en tant qu'elles sont irrationnées dans la raison. C'est pourquoi il considère les substances en tant que, selon que les saisit l'intelligence, donc secundum acceptionem intellectus. Il ne considère pas la substance. Il considère la substance en tant que l'intelligence a saisi. Elles sont sous-jacentes à l'intention d'universalité. Alors, il les considère en tant qu'elles sont sous-jacentes, en tant que, de fait, l'intelligence, quand elle saisit quelque chose, elle universalise. Un phénomène extraordinaire de l'universel, qui a tracassé toute la philosophie, qui continue de tracasser la philosophie. Le singulier, l'universel, vous savez, c'est la philosophie reviendra toujours là-dessus, quels sont les rapports exacts entre le singulier et l'universel. Alors, on voit bien le singulier, la réalité qui existe, les réalités qui existent sont toutes singulières. Vous n'avez jamais vu exister un universel. C'est un cyclope. Tandis que ce que vous voyez, c'est des singuliers. Alors, la différence entre ce chat et chat, c'est la signification de l'universel, l'apparition de l'universel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, le logicien considère l'hérité en tant qu'elles sont irrationnelles. En tant qu'elles sont irrationnelles, elles sont sous-jacentes à l'intention d'universalité. L'universalité apparaît. Mais la philosophie, donc le philosophe de la philosophie première, considère les réalités selon qu'elles sont des êtres, entia. Il dit également dans son commentaire du De Anima, troisième livre, chapitre 8, numéro 718, il dit quelque chose de semblable. Et dans le premier livre de Sentences, 1519, question 5, article 2, ad primum, le logicien considère seulement les intentions intentionnelles. Ce mot très très difficile, encore une fois, à traduire. Il faut essayer de progressivement. Ne prenez pas trop vite l'intentionnalité des modernes. L'intentionnalité des modernes provient de là, mais il faut d'abord comprendre ce que veut dire l'intention telle qu'elle est prise dans Albert le Grand, qui vient d'Avicenne, l'intention vient d'Avicenne, et le mot, parce qu'il n'est pas explicitement chez Aristote. Aristote ne parle pas directement de ses intentionnels. Alors, c'est intéressant de voir l'apparition de ses intentions et l'importance que ça va prendre ensuite. Donc, le logicien considère seulement les intentions, tandis que le métaphysicien et le philosophe de la nature considèrent les réalités selon leur respect. Donc, il y a là l'opposition entre les intentionnels et l'esprit. Très important. Albert Legrand distinguait aussi les considérations respectives de la logique, de la philosophie de la nature, de la philosophie première. Il nous disait ceci, le logicien considère rationner la raison. Le philosophe de la nature, physicus, considère l'esprit du mobile. Et le philosophe de la philosophie première, philosophie primus, considère ce qui est substance par soi, faisant être ce qui est. Id quod est per se substantia, patient esse id quod est. Vous voyez, la reprise avec une précision, c'est que Albert Legrand disait simplement rationner, Saint Thomas précise intentionnel. Et là, Saint Thomas distinguera ensuite, nous reverrons, les intentions premières, les intentions secondes. Ne voyons pas pour le moment, voyons simplement ici. C'est, je crois, l'apport qu'il nous donne dans son commentaire de métaphysique, il nous montre ce parallélisme constant entre la recherche philosophique et la recherche logique. Et on comprend très bien, puisque la philosophie implique la connaissance, et dès qu'il y a connaissance, il y a transformation de la réalité. Et donc, tout ce que considère le philosophe, le logicien peut le considérer. Mais il le considère sous un autre aspect. Alors, vous voyez, c'est la distinction qu'il faut bien se rappeler quand il s'agit de Saint Thomas, quand il s'agit de Saint Thomas commentateur d'Aristote, la distinction entre la raison formelle sous laquelle on regarde quelque chose et l'objet matériel. Si on ne fait pas cette distinction-là, on ne peut absolument pas comprendre cette distinction que fait Saint Thomas. je précise, hein, la raison formelle sous laquelle on regarde une chose, c'est ce qui permet de distinguer les sciences, parce que les sciences sont toujours un aspect formel et précis, puisque c'est une connaissance par les causes. Si c'est une connaissance par les causes, toute connaissance scientifique implique nécessairement une certaine formalité. Tandis qu'au contraire, l'objet matériel qui est connu, ce qui est connu, peut être commun à plusieurs sciences. La différence entre aujourd'hui, si vous voulez, le psychologue s'intéresse à l'homme, le sociologue s'intéresse à l'homme, le philosophe s'intéresse à l'homme, le théologien s'intéresse à l'homme. Mais chacun sous des points de vue différents, chacun sous un angle différent. Alors ça, c'est la raison formelle de l'objet qui nous permet de discerner chacun saisit dans l'homme quelque chose de particulier. Eh bien, la différence entre le logicien et le philosophe, et ça c'est un logicien très à cœur, c'est que le philosophe saisit les faits, tandis que le logicien saisit les intentions. Alors, on va ici, parce que c'est quand même l'histoire de la philosophie qui est impliquée là-dedans. Hein. La logique, elle joue un rôle très important dans l'histoire de la philosophie. Alors, c'est quand même très important de voir ici le partage que donne Saint-Thomas. Le philosophe regarde l'esprit, le logicien regarde les intentions. Alors, le jour qui arrivera très vite, après Saint-Thomas, où le jugement d'existence est mis entre parenthèses, où l'esprit est mis entre parenthèses, vous voyez bien qu'on n'arrivera plus à distinguer la logique de la philosophie. Ça, il faut saisir, hein, c'est très important. On peut dire que ce passage, on peut dire que c'est une évolution, et donc il faut être dans le dire milieu, ça c'est sûr. Vous vous demandez si c'est une évolution ou une confusion. Ça, c'est la question qui est fausse. Philosophiquement, nous devons être lucides, hein, et nous devons toujours être lucides. Nous ne devons pas trop vite dire que c'est une confusion, pas trop vite dire que c'est une évolution. Maintenant, le point d'interrogation. C'est intelligent de le maintenir. Pas trop longtemps, parce qu'à un moment donné, il faudra nécessairement conclure. Mais il faut se poser la question. Pour l'introduction de Saint-Thomas, je vais vous expliquer quelques textes qui semblent très nets. Sans quoi, seulement pas lié à Saint-Thomas, le partage des eaux est net entre le point de vue du philosophe qui regarde toujours les réalités dans le respect, donc dans la résistance actuelle. C'est la réalité, c'est la résistance actuelle. Tandis que le logicien s'intéresse aux intentionnels qui apparaissent à partir de la rationnelle, de la raison, rationnelle, par la raison. Il y a eu le travail de l'intelligence. Le travail de l'intelligence a fait que le point de vue des intentions apparaît. Et alors, le logicien regarde. Donc, au point de vue de la compréhension à l'égard du réel, il montre une différence. Le logicien n'atteint jamais l'esprit. Jamais. Il ne faut pas atteindre l'esprit. Le logicien demeurera donc dans l'ordre du possible. C'est ça qui est intéressant à voir. L'existence céleste est de l'ordre du possible. Tandis que vous avez le philosophe atteint ce qui est. Alors vous voyez, c'est là où il va y avoir un passage extrêmement difficile à bien préciser, c'est lorsque la critique va apparaître. Je vous signale tout de suite parce que c'est intéressant de voir. Lorsque la critique va apparaître, c'est-à-dire lorsque de fait, très vite après Saint-Thomas, très très vite après Saint-Thomas, dès chez Henri de Gand, donc avant ça, dès chez Henri de Gand et avant Don Scott, Henri de Gand est le grand maître de Don Scott, hein, faut pas l'oublier. Don Scott ne cesse de citer Henri de Gand. Henri de Gand, c'est le grand de Louvain. C'est le courant de Louvain, faut pas l'oublier, Henri de Gand. Et c'est 30 ans après Saint-Thomas. Alors, Henri de Gand, lui, va faire cette distinction très intéressante et très subtile, et qui va jouer à la rôle, je crois, très très important. Qui va faire que la distinction chez Saint-Thomas, l'aspect de la scientifique n'apparaît pas chez Saint-Thomas, explicitement. Il y a philosophie et logique. La critique va apparaître plus tard.
La critique n'apparaît pas directement, mais c'est indiqué à cause du fossile, vous voyez. C'est peut-être ça le fossile.
Ce qui est intéressant à voir, c'est Henri Dodon va prendre donc la distinction de ce qui vient a posteriori. Ce qui vient a posteriori, nous sommes dans le contingent. Dans le contingent, c'est le réel. L'esprit, comme vous l'expliquez, est toujours contingent. Or, cet esprit qui est toujours dans le contingent, ne nous permet pas de saisir vraiment le nécessaire. Pour saisir le nécessaire, il faut donc revenir à une position a priori. Et la priori, c'est saisir le possible. Et à partir du possible, on va saisir le nécessaire. Alors, à partir de l'envie dedans, une zone intermédiaire va apparaître, la zone du possible, qui n'est pas la logique, puisque pour lui, la métaphysique, c'est la philosophie première, est à ce niveau du possible. Quand vous êtes dans le contingent et à posteriori, vous restez dans la philosophie de la logique. La philosophie de la logique, c'est le contingent et la posteriori.
C'est ce qui vient de l'existence. Que vous, la seule chose que vous voyez, c'est déjà son avis. Vous n'avez jamais saisi un être humain. Je ne crois pas. Vous avez saisi que vous êtes dans votre expérience, vous êtes dans votre matière. Donc, si la philosophie de la matière devient un contingent, il n'atteint pas le nécessaire. Le contingent avant le contingent. Je reste dans le contingent. Je suis bien un premier matière du monde.
Je sais qu'il y a un premier matière immobile, mais ce premier matière immobile,
il peut être multiple, c'est dans la multiplicité, ce n'est pas une nécessaire absolue. Il est relatif au contingent. Et il est posé à partir du contingent. Donc il est relatif au contingent. Donc je reste un contingent.
Tant pis pour au contraire, il faut l'élever dans la métaphysique, il faut saisir alors ce domaine de la priori, et ce domaine de la priori apparaît à partir du possible. Le possible, c'est le point de vue des visibilités. La fluidité est quelque chose de possible, et toute fluidité est nécessaire. Elle est au-delà de la contingence. Retour à Avicenne. C'est pas possible, c'est retour à Avicenne. Henri Dodon, c'est un retour à Avicenne. Une critique Saint-Thomas, c'est pas si Avicenne est retour à Avicenne. Alors, il reprend le point de vue du possible en reprenant le point de vue de la fluidité et le point de vue du nécessaire. Cette notion a priori du possible. Ce n'est pas la logique, c'est la philosophie première. Mais nous sommes dans un ordre intentionnel. Il parle des intentions et il parle des conditions universelles de l'être, les transcendantaux. Les transcendantaux jouent à ce niveau des possibles. Ils ne jouent pas au niveau de l'expression. Et toute la métaphysique est à partir des transcendantaux. Parce que les transcendantaux, ce sont les conditions nécessaires de l'être, c'est le point de vue fluiditatif, les propriétés de l'être, c'est donc ce qui me permet d'avoir une connaissance fluiditative de l'être. Il suffit une connaissance fluiditative de l'être, d'avoir une certaine connaissance du possible. Alors vous voyez qu'à partir de là, donc, apparaît une nouvelle distinction très importante, le point de vue du possible. La connaissance a priori est acquise. Mais qui l'exprime directement celle qui lui est donnée dans la contingence des choses, c'est le point de vue. Et alors, l'esprit est remplacé par le nécessaire. C'est le nécessaire qu'on cherche en premier lieu. Et non pas directement l'acte d'être. C'est le nécessaire. La propriété de l'acte d'être, c'est le nécessaire. C'est ça qu'on cherche. Et la logique viendra directement très liée à ce point de vue, c'est intentionnel.
Ceci, mettez-le entre parenthèses, parce qu'il va encore avoir Henri Dodon comme position point de vue logique. Mais je crois que ça joue un très grand rôle important, c'est de bien voir que entre la distinction de Saint Thomas, entre l'esprit et le point de vue des intentions, mettez aussi le point de vue du possible. Parce qu'alors, c'est ce point de vue du possible qui va être la plaque tournante entre les deux. Vous allez le voir. Hein? Bon, alors, encore un petit mot sur Saint Thomas. Dans son commentaire sur le Périhermeneia, dans le premium, hein, ceux qui s'intéressent à la position logique de Saint-Thomas, regardez le premium du Périhermeneia, ça vaut la peine, c'est un très beau passage,
et puis le premium de saint Thomas sur les seconds analytiques. Saint Thomas, commentateur d'Aristote, et commentateur d'Aristote au niveau logique. Alors, je vous donne très rapidement ce texte. Après avoir rappelé la doctrine du De Anima, deux opérations de l'intelligence. Une qui est dit l'opération des indivisibles, et l'autre qui est dit l'opération de la composition, il est ajouté une troisième opération. Saint Thomas rappelle donc les trois opérations de l'intelligence. C'est intéressant parce que ça montre toujours pour lui la logique présuppose cette division fondamentale du De Anima des trois opérations de l'esprit. Toute la logique se structure autour de ce que représentent les trois opérations de l'intelligence. Nous y reviendrons. Hein. Comme cependant, alors, cum autem logica dicatur, comme cependant, la logique est dit la science rationaliste. C'est la première fois qu'on voit cette expression, la science rationnelle. Il est nécessaire que sa considération se tourne vers ces choses qui appartiennent vers les trois opérations de l'intelligence. Vous voyez le point de vue. La logique et la science rationaliste. On dirait aujourd'hui la science de la pensée. Ça traduit bien science rationaliste. Parce que science rationaliste, on peut traduire science rationnelle. C'est pas ça du tout, ça veut dire. C'est la science de la raison. C'est la science de l'intelligence. Et donc, c'est pour ça qu'il met tout de suite, il est nécessaire que sa considération, vers sa tour, se tourne auprès des choses qui appartiennent à l'espace d'opération de l'intelligence. Les opérations de la raison. De celles-ci, donc, qui appartiennent à la première opération de l'intelligence, c'est-à-dire au sujet de ces choses qui sont conçues par une intelligence simple, Aristote détermine dans le livre des prédicaments. Donc, Saint Thomas interprète la division que nous avons vue d'Aristote de cette manière, c'est une systématisation, comme on dira, de la pensée d'Aristote faite par Saint Thomas, et c'est intéressant à voir, il le donne de cette manière, c'est que de fait, ce que Aristote dira dans le livre des prédicaments, c'est-à-dire dans le livre des catégories, c'est la même chose, prédicaments et catégories, traduction latine, traduction grecque. Dans le livre donc des prédicaments, Aristote traite de la logique de la première opération. Au sujet de ces choses qui appartiennent à la seconde.